Parlons de la campagne électorale, Hélène. On en parle depuis déjà quelques jours, quelques mois, quelques années ou presque. On se prépare à ça. Ça s'en vient bientôt.
C'est un incontournable.
Et plus les jours avancent, là, justement, en vue de la prochaine campagne électorale, il y a des annonces qui se font un peu partout. Donc, on annonce des candidats. Et on s'est posé la question, est-ce qu'un parti politique qui arrive, on entend souvent l'expression « candidat vedette », avec son candidat vedette, est-ce que ses chances de l'emporter dans une circonscription sont meilleures?
En fait, on va en discuter là, avec Jean-François Daou, qui est doctorant en sciences politiques à l'Université de Montréal. Et je le mentionne parce qu'il sera docteur dans 4 jours. Bonjour, M. Daou.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Ça va très bien, et vous?
Très bien, je vous remercie. Alors, M. Daou, je pense que l'étude que vous avez faite démontrait assez clairement que les gens votaient majoritairement pour le parti et non pas pour le candidat, qu'il soit vedette ou pas.
Effectivement, en fait, c'est une étude co-réalisée avec André Blais, professeur à l'Université de Montréal. Et notre conclusion de l'étude, le premier constat qu'on fait, c'est qu'il y a 60% de l'électorat qui n'a pas de préférence pour un candidat en particulier, c'est-à-dire qu'au-delà des partis politiques, ils n'ont pas de préférence au niveau individuel. Et donc, déjà, chez 60% des gens, le candidat ne peut pas faire de différence. Donc, ça part mal déjà pour ceux qui voudraient argumenter que les candidats locaux peuvent faire une très grande différence.
Mais lors d'une joute serrée, par exemple, je pense que le nom du candidat, ou en tout cas sa popularité, peut être un facteur assez déterminant parce que vous parlez, bon, c'est pas un gros pourcentage, mais il y a quand même 3% des gens qui sont influencés par la valeur du candidat.
Oui, effectivement. Donc, le 3%, bon, ça paraît très peu, en fait, mais déjà, le 3%, ce qui signifie, c'est que lorsqu'on a une préférence pour un candidat local qui vient d'un parti différent de notre candidat préféré, donc je vous donne un exemple concret. Mon candidat préféré, il est, par exemple, libéral, mais mon parti préféré, c'est la CAQ. Mm-hmm. Eh bien, il y a 3% des gens qui vont préférer voter pour le candidat local au détriment de leur parti préféré. Donc ça, c'est très fort. C'est pas juste un effet du candidat local, c'est un effet au point d'aller voter contre, entre guillemets, son parti préféré. Donc, oui, ça peut jouer dans le cas de course serrée, mais il ne faut pas oublier
c'est seulement 3%,
qu'il n'y en a pas des tonnes.
C'est ça, c'est seulement 3%.
Oui, c'est 3%. Mais il faut pas oublier qu'il y en a pas des tonnes non plus de candidats vedettes. Mais quand il y a un candidat vedette qui, par exemple, a un background intéressant où les citoyens ont une opinion assez positive de cette personne-là, notamment par sa carrière antérieure, ça peut jouer. Ou un autre type de candidat qui peut jouer aussi, c'est moins une candidature vedette, mais une candidature qui amène beaucoup de militants ou qui a un réseau local, donc peu connu de la société civile en général, à l'échelle du Québec, mais dans la circonscription, par exemple, impliqué dans le communautaire, etc. Mm-hmm. Donc, ces deux types de candidatures-là, oui, peuvent jouer, mais si on regarde la big picture, au final, les candidatures locales, ça joue à la marge.
Donc, si on parle d'actualité un peu, là, puis qu'on revient avec ce qui s'est passé avec François Bouimet, qui a été remplacé à la dernière minute par Enrico Ciccone. Donc, si je vous entends bien, c'est un très mauvais calcul de la part des libéraux d'avoir fait ça.
Moi, je suis pas convaincu que c'était le meilleur calcul, effectivement, parce que, en fait, la seule façon dont le calcul pouvait être bon, c'est si la transition se passait très bien, sans faire de bruit, ce qui visiblement n'a pas été
le cas. C'est un gros échec.
Ouais. Et si la candidature de M. Ciccone amenait d'autres, allait chercher des votes que François Bouimet ne pouvait pas aller chercher. Et bon, on peut penser par exemple que François Bouimet était bien installé dans le comté, qu'il y avait des contacts au niveau municipal et bon, qu'il pouvait s'impliquer d'une certaine façon en campagne électorale plus que M. Ciccone. Donc, clairement, c'était un mauvais calcul et probablement que les conseillers auraient dû lire mon étude et celle d'André Blais.
Oui, manifestement, puis probablement qu'ils ne l'ont pas fait, malheureusement pour eux maintenant. Dites-moi, à votre avis, quelle sera l'importance du vote stratégique lors de la prochaine élection?
Bon, le vote stratégique, on en parle beaucoup. C'est un sujet. Les médias raffolent parler du vote stratégique. Les partis en parlent également. Je me souviens d'une campagne de Québec solidaire en 2012, je crois. Le slogan sur les campagnes, c'était « Je vote avec mon cœur », qui s'adressait directement à contrer un peu le vote stratégique. Donc, Québec solidaire pourrait être victime. Mais en fait, une seule étude réalisée au Québec sur le vote stratégique avec des données, les données nécessaires. Et grosso modo, on voit qu'il y a 8 à 9 % de l'électorat qui vote de manière stratégiquement. Et quand on dit voter stratégiquement, c'est important de dire on fait référence à quoi, là. Mm-hmm. C'est voter stratégiquement, c'est le fait de voter pour un parti qui n'est pas mon parti préféré dans l'optique de bloquer une pire option. Donc, le scénario classique, c'est par exemple, on a libéraux, CAQ, PQ. Si je suis un électeur du PQ, mon deuxième choix, c'est la CAQ, mon troisième choix, c'est les libéraux, ben je pourrais voter CAQ pour bloquer les libéraux.
Comme il semble vouloir se dessiner actuellement, si on se fie au sondage.
Présentement, oui, ce serait le scénario, c'est-à-dire que c'est les électeurs du Parti québécois qui ont intérêt à déserter stratégiquement en faveur de la CAQ, oui.
Excellent. Si je reviens à l'importance du candidat, je vous écoute, là, puis la première question qui me vient en tête, pourquoi dans ce cas-là, les différents partis recherchent tant à s'associer avec ce qu'on appelle des candidats vedettes?
Ben, c'est parce qu'il peut avoir des effets indirects autre que simplement le nombre de votes dans la circonscription du candidat vedette. Par exemple, si je pense par exemple à Jacques Duchesneau en 2014. Jacques Duchesneau qui est allé avec la CAQ et qui clairement amenait l'effet indirect de donner à la CAQ une identité qui très clean, entre guillemets, très Jacques Duchesneau était bien vu, très pur, exactement. Et c'est ce que la CAQ a encore voulu faire, par exemple, en allant chercher, je ne me souviens plus de son nom, mais de la commission Charbonneau, une des procureurs de la commission Charbonneau.
Sonia
Lebel. Voilà. Donc un des effets indirects, c'est ça. Et où, par exemple, la CAQ qui a voulu recruter Gertrude,
Bourdon.
Et là, j'oublie encore son nom, mais qui clairement voulait se donner... qui clairement voulait se donner une crédibilité en matière de santé. Mm-hmm. Et donc, l'effet d'aller chercher un candidat local, ça peut envoyer le message que, ben, vous voyez, on a une ministre en devenir, une ministre de la Santé en devenir, qui est crédible, solide, et donc on est solide en matière de santé si vous nous élisez pour former un gouvernement.
Donc, c'était donc, plus pour la force de l'équipe, finalement, qu'on recherche toujours des candidats vedettes.
On veut créer un buzz autour du parti.
C'est ça.
Exactement. Ça permet, bon, premièrement, de faire les nouvelles de façon positive. Ça crée un buzz, oui, au niveau médiatique. Et en plus, ça donne une certaine crédibilité. On peut penser, par exemple, à PKT, qui est une candidature vedette, une candidature vedette, et qui clairement a étiqueté le Parti québécois à une certaine identité et qui a ramené le fait que le PQ était souverainiste, là, lorsque Pierre-Carl Péladeau a brandi le poing en l'air en disant « je veux faire un pays », ben, clairement, ça leur a amené une identité au parti. Donc, c'est le genre de fait indirect qui peut se produire par des candidatures vedettes.
Jean-François Daou, dans 4 jours, docteur en sciences politiques à l'Université de Montréal. Merci beaucoup de nous avoir éclairés sur ces questions.
Ça fait plaisir.
Bonne journée.
Bonne journée.